Nous allons ce matin voir trois textes qui nous parlent d'un comportement spirituel qui amène bien sûr la bénédiction. Nous allons commencer avec le psaume 56, où David, alors qu'il est saisi par les Philistins, il se retrouve dans une situation difficile. C'est ce moment où Saül voulait le tuer, il fuyait. Psaume 56. Et il fait donc une expérience, d'ailleurs, qu'il a définie dans le psaume 56. Il va faire une expérience qui est, bien sûr, liée à ce que Dieu veut que nous sachions faire, lui faire confiance. Regardez bien psaume 56, verset 10. Verset 10. « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. » Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Regardez cette corrélation entre la prière de David. Au jour où je crie, en vérité, ce cri, c'est un cri de foi. Je me confie en Dieu. Nous allons prendre une autre lecture qui est un témoignage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. De ce qui s'est passé lorsque Josué est entré dans le pays de Canaan, il nous est défini par le Saint-Esprit comment les murailles de Jéricho sont tombées. Sont-elles tombées par la puissance de Dieu ? Sont-elles tombées par la foi des hommes ? Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux chapitre 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Dieu met l'accent non pas sur sa puissance, mais sur la foi des hommes. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, le Seigneur parle de l'importance de continuer à prier et à ne jamais se relâcher. Dans ce contexte, il parle des épreuves que nous vivons. Est-ce que vous avez déjà vécu des épreuves ? Est-ce que nous pouvons subir des épreuves dans tous les domaines ? Est-ce qu'un chrétien peut subir des injustices ? Oui. Dans ce texte, c'est l'injustice, une épreuve qui se présente. Je pense beaucoup à Daniel parce que j'ai partagé le week-end dernier les épreuves qu'a rencontrées Daniel. Il n'a fait que rencontrer des épreuves à cause de son intégrité, etc. À cause de ses choix sérieux, etc. etc. Et c'est des situations souvent injustes. Bon, on peut souffrir à cause de notre malhonnêteté. C'est écrit que personne ne souffre à cause de sa pour être malfaiteur, etc. Il y a des épreuves qu'on sait bien chercher, mais il y a des épreuves qui sont le résultat des situations que l'on rencontre. Et cette parabole que le Seigneur Jésus adresse est par rapport au temps qui passe, parce qu'au verset 4, il nous est dit que pendant longtemps, il refusa. Ces quatre mots, moi, ils ne me plaisent pas beaucoup, mais ils sont là. Pendant longtemps, il refusa. Il y a des fois où Dieu nous refuse. Le Seigneur dit, verset 6, écoutez bien, mes frères et sœurs, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à leur égard ? Première question. Que Dieu pose aux élus, pas aux chrétiens de nom, aux élus, à ceux qui sont vraiment convertis, à ceux qui ont répondu à l'appel. Je le relis. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus ? Qui crient à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la confiance ou la foi sur la terre. Il y a des comportements qui plaisent à Dieu. Il y a des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Ça serait très judicieux de faire une ou deux études là-dessus, de voir ce que Dieu a en horreur, de voir ce qui plaît à Dieu. Par exemple, on peut le faire, on a le temps. Proverbe chapitre 6. Je pensais que Madame Byzantin allait intervenir, comme elle me l'avait demandé, un petit quart d'heure. Comme elle s'est désistée. Proverbe chapitre 6, verset 16. Il y a des choses que Dieu a en horreur. C'est important de savoir ce que Dieu déteste et ce qui plaît au Seigneur. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7, qu'il a en horreur. les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, celui qui excite des querelles entre frères. Voilà. Je ne sais pas si vous réalisez en même temps que moi, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Dieu aime la vérité, il y a des problèmes, c'est normal, mais Dieu aime la vérité. Il y a des choses qui plaisent à Dieu. Vous connaissez ce texte, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais avec la foi, il est possible de lui être agréable. Et je voudrais, mes frères et sœurs, vous aider en remplaçant, pendant les mois qui vont suivre, le mot foi par le mot confiance. Je vous assure, mes frères et sœurs, je vous donne un dernier entretien. Il y a une dame qui est venue me voir, une chrétienne, des gens qui souffrent à cause d'épreuves, etc. Et je lui ai posé deux questions. Je lui ai dit, ma sœur, est-ce que vous faites confiance à Dieu quand vous priez ? Oui. Est-ce que vous vous inquiétez quand vous ne priez plus ? Oui. Le problème, c'est qu'on fait confiance à la prière. On ne fait pas confiance à Dieu. Un homme qui fait confiance à Dieu, il fait confiance à Dieu quand il prie, et il fait confiance à Dieu quand il a fini de prier, et quand il vaque à n'importe quelle occupation. C'est bien la preuve que les gens ne se confient pas en Dieu. Et quand David dit « Mes ennemis reculent au jour où je crie », il est hors de question de penser que ce sont des décibels. Dans des églises, on a dit que la foi, c'était crier fort. Et celui qui avait le plus de foi, c'est celui qui braillait le plus fort. Mais que c'est triste, que c'est triste. Que c'est triste. Quel témoignage lamentable lorsque des nouvelles personnes entrent dans nos assemblées et qu'ils entendent les gens crier. Par contre, ça peut arriver qu'une femme dans la détresse, parce que son mari est dans le coma, parce que son enfant est en train de mourir, elle va crier à Dieu de tout son cœur. Ça ne va pas gêner là, parce qu'on va sentir la souffrance. Mais quand on crie pour crier, c'est stupide. Il crie à Dieu, David. Ça fait des années que ça dure. Il a reçu l'onction pour être roi, mais ça ne prend pas le chemin, je vous le dis. Et il est là, il dit, crie à Dieu, mais il explique ce qu'est ce cri qu'il fait monter vers Dieu, c'est il se confie en Dieu. Et mes frères et sœurs, je me suis senti poussé à revenir ce matin sur ce sujet, à savoir de lui faire confiance, de lui faire pleinement confiance. C'est important, mes frères et sœurs. Quelqu'un de droit devant Dieu, c'est quelqu'un qui ne doute pas de la puissance de Dieu. Le Seigneur est tout puissant. Et je pense vraiment qu'il faut arrêter de regarder à soi, de regarder à ses défauts, de regarder à ses manquements. Il faut le régler tout ça. S'il y a un péché, il faut le régler. Mais il faut arrêter de regarder à ce que nous sommes nous. La Bible dit, mais regardez au Seigneur. Ayez les yeux fixés sur le Seigneur. La Bible dit que celui qui pratique la justice lui est agréable. On va faire cette étude, on va la faire pas aujourd'hui, mais on va la faire. Car je crois que c'est bien, ça Dieu le déteste, ça Dieu l'apprécie. Alors je m'oriente et incontournablement vers ce que Dieu aime. C'est Paul qui dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce qu'on n'est pas un peu là chaque fois pour examiner ce qui est agréable au Seigneur? Ce qui plaît à Dieu, c'est une vraie foi. J'ai apprécié qu'on chante ce cantique, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Celui-là, vous avez vu le cantique qu'on a chanté? Il ne chancelle plus, complète sa délivrance. Ce cantique, il est extraordinaire. Parce qu'il explique vraiment ce qu'est une véritable foi. Et la vraie foi, elle plaît à Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu voit qu'on lui fait confiance. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on fait confiance à Dieu. Jésus dit bien, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et pourtant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une promesse. Il dit, écoutez-moi, je sais que, j'explique la parabole. Je sais qu'on subit des injustices. J'en ai subi, vous en subirez. On s'est moqué de moi, on se moquera de vous. Vous savez tout ce que Jésus a dit sur les injustices. Il dit, mais voilà, je vous donne cette parabole. Il y a des gens mauvais, il y a ce juge inique. Et pourtant, cette femme, elle avait droit. Elle avait le droit de son côté. Elle avait le droit de son côté et elle savait qu'elle ne pouvait pas faire le poids. Mais elle avait le droit de son côté. Et elle a persisté. Et elle a été exaucée. Mais moi, dit le Seigneur, parce qu'on n'a pas affaire à un juge unique. Enfin, quand même. Notre Dieu, ce n'est pas un juge unique. Notre Dieu, c'est un père aimant. Qui sait quand est-ce qu'il doit régler les choses? Est-ce que Dieu sait quand est-ce qu'il doit régler? S'il veut le faire maintenant? S'il veut le faire dans 10 mois? S'il veut le faire quand on sera au ciel? Après tout, est-ce que Dieu peut faire en sorte que certains de nos problèmes ne soient compris qu'au ciel? Oui, est-ce qu'il peut? Ben oui. Alors Jésus pose la question, mais quand le Fils de l'homme viendra? Alors que je suis en train de vous dire, dit le Seigneur, que moi je vous dis, Je vous ferai justice. Dieu vous fera justice à ses élus. Les élus, ce n'est pas les chrétiens de nom. Ce n'est pas les catholiques, les protestants ou les évangéliques. C'est les élus, ce sont les vrais chrétiens. Ils ont été appelés par Dieu. Ils ont répondu à l'appel. C'est pour ça qu'ils ont été élus. C'est des gens qui croient Dieu sur parole. C'est ça un chrétien. Un chrétien, il croit Dieu sur parole. Quand un chrétien commence à contester la parole de Dieu, il n'a pas confiance à Dieu. Il a besoin de se confier à autre chose qu'en Dieu. Parce que si la Bible met l'accent sur les gens qui se confient en Dieu, la Bible met aussi l'accent sur les gens qui se confient dans leur richesse, qui se confient dans le mensonge, qui se confient dans la violence, c'est écrit. Qui se confient dans l'Égypte, pour les nouveaux, c'est les gens qui se confient dans les forces que l'on puise dans le monde. Malheur, dit le Seigneur, à ces hommes qui se confient dans la violence, à ces hommes qui se confient dans le mensonge. Et Jésus pose la question, c'est pour nous aider. Mais trouvera-t-il la foi lorsqu'il apaise la tempête et que les apôtres sont certainement sous le choc de cette épreuve qu'ils viennent de traverser? Il leur pose la question avec beaucoup de tact. Où est votre foi? Il ne leur a pas dit, vous avez bien fait de me réveiller. Heureusement que j'étais là. Où est votre foi? Où est votre confiance en Dieu? C'est une question que Dieu peut nous poser avec beaucoup de tact, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de fermeté, avec même beaucoup de sévérité. Il sait, le Seigneur, comment vous réagissez. Il y a des gens, ils réagissent de suite avec la tendresse. C'est pas vrai? Il y a des gens, vous êtes tendre avec eux. Oh, merci, j'ai compris. Il y a des gens, ils réagissent pas avec la tendresse. Il faut serrer les boulons, comme on dit. C'est pas vrai? Est-ce que Dieu n'est pas obligé parfois de serrer les boulons? Est-ce que c'est pas vrai? Eh oui. Eh bien, merci, Seigneur. Mais s'il pose une question, qu'il nous la pose et qu'on y réponde. Où est votre confiance? Mes frères et sœurs, avec beaucoup de cœur, écoutez, réécoutez cette question. Où est votre confiance? C'est important de le saisir parce que c'est un principe immuable dans le royaume de Dieu. Ça sera comme ça toujours. Il vous sera toujours et toujours et toujours fait selon votre foi. C'est un principe biblique, immuable. Éternel, il vous sera fait selon votre foi. Le juste, il vivra par la foi. Et parce qu'on ne fait pas confiance, eh bien, on se perd. Pourquoi certains ont fait naufrage par rapport à la foi? Vous vous êtes des fois posé la question. Enfin, quand vous lisez la Bible, des hommes qui ont travaillé avec Paul, c'était quand même quelque chose d'avoir été un collègue de l'apôtre Paul. Et Paul le dira, mais ils ont fait naufrage. Certains m'ont abandonné. Pourquoi on abandonne Dieu? Pourquoi on abandonne la foi? Il est dit que certains se sont égarés, loin de la foi. Paul, il va même plus loin, il dit, mais certains n'ont pas la foi. Ils ont perdu la foi. Enfin, on ne va pas prendre tous les textes. Pourquoi? Mais parce que pour moi, il y a eu un problème au départ. Il n'y avait pas une véritable foi. Parce que quand on a découvert ce qu'est la vraie confiance, c'est un trésor. Et on ne se détache pas d'un trésor. Alléluia. Où est votre foi? Oui, il y a des raisons, c'est pas le but de ma prédication ce matin. Mais on peut se confier dans la chair. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Maudit soit l'homme. C'est Dieu qui parle, c'est des mots sévères, c'est des mots qu'on n'aime presque pas utiliser. Quand on entend quelqu'un qui a dit, moi j'ai maudit mon fils. Moi j'ai entendu ça. Rien que ça, ça fait pitié. Quand on entend un être humain, maudire quelqu'un, c'est terrible, c'est ridicule en plus. Mais quand ça vient de la bouche de Dieu, je vous avoue que quand même ça mérite la réflexion. Dieu parle aux gens qui sont bénis. Dieu ça parlera aux gens qui sont maudits, qui n'auront pas voulu mettre leur confiance en Dieu. Quelqu'un, il est maudit, c'est-à-dire qu'il se fait du mal lorsqu'il se confie dans sa force, dans sa richesse, dans son intelligence. Et pourtant, combien c'est important d'en avoir. Quelques proverbes. Quiconque qui a confiance en son propre cœur est un insensé. Tu as eu confiance dans ta voix, dira le prophète Osée, et vous lirez le chapitre 10 et vous verrez comment ça s'est fini. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Le Seigneur, il a l'intention de nous bénir à chacun. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Dieu peut nous bénir. Oui ou non? À condition que nous réagissons bien lorsque le Seigneur nous parle. J'étais le week-end dernier à Gap et j'ai fait tout un tas d'études sur l'épreuve. Et j'ai expliqué ce verset, il faut que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la gloire, l'honneur et la louange lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve, elle doit avoir un résultat. Normalement, elle doit avoir un résultat positif. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on réagit bien, il y a un esprit positif. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, c'était à cause de son intégrité. Et la Bible nous dit qu'il est ressorti le lendemain matin sans blessure. Alléluia. Mais ce n'est pas automatique ça, de sortir des épreuves sans blessure. Merci Seigneur. Jésus, lui, il est ressorti de l'épreuve avec beaucoup de blessures. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est pas automatique. Il y a des épreuves, on en sort sans blessure. Mais gloire à Dieu, c'est pas plus mal. Il y a des épreuves, on en sort avec des blessures. Et j'ai pris tout un tas d'exemples où Dieu, quand quelqu'un s'est vraiment mal comporté, Dieu est intervenu. Quand Dieu est intervenu dans la vie de Caïn, Caïn a été jaloux. Il a été jaloux parce que Dieu a approuvé le sacrifice de son frère et Dieu n'a pas apprécié le sien, qui était des fruits et des légumes de la terre. Et il s'irrite et Dieu prend le soin de le reprendre. Mais pourquoi tu t'irrites ? Fais-tu bien de t'irriter ? Surmonte le mal par le bien. Le péché se couche à ta porte, domine sur lui. Est-ce qu'il a bien réagi ? Non, vous connaissez la suite. Et quels que soient les cas de figure, je pensais également à ce fameux roi, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était quelqu'un, Nebuchadnezzar. Dieu l'avait utilisé pour punir Israël. Et cet homme, il a dû croire qu'il était le meilleur. Il a commencé à s'enorgueillir. Et un jour, Dieu lui envoie le prophète Daniel et lui dit, écoute, Nebuchadnezzar, attention, attention. Puisse mon conseil te plaire et ton bonheur pourra se prolonger. C'est pas, vous connaissez cette affaire aussi. Dieu l'avertit. Il aurait dû dire, bon, je sais ce que j'ai à faire. Un an a passé, rien ne s'est passé. Il a su dire, Daniel, il s'est loupé. Il a dit n'importe quoi. Et là, il a commencé à s'enorgueillir et la sanction est tombée. Alors que la volonté de Dieu, c'était que le bonheur de cet homme se prolonge. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la foi, c'est sérieux. La foi, c'est je crois ce que Dieu dit. Dieu m'encourage, c'est bien. Dieu me reprend, c'est bien. Dieu me parle de manière sévère, c'est très bien. Dieu me parle avec douceur, c'est bien pareil. Je veux que Dieu me parle. Et je veux réagir de la façon la plus intelligente. Je ne veux pas réagir d'une manière religieuse. Je ne veux pas essayer d'empiler de plus en plus d'heures de prière pour me faire croire que je suis un meilleur chrétien, empiler des heures et des heures de jeûne pour me faire croire que je suis spirituel. Non, merci Seigneur si je prie. Mais même si j'ai moins de temps pour prier, faites-lui confiance. Nous avons un Dieu qui attend qu'on lui fasse confiance. David, il était coincé, il a crié à Dieu. Et Dieu est intervenu. Nebuchadnezzar, il aurait crié à Dieu, Dieu serait intervenu. Caïn, après avoir entendu la voix de Dieu, aurait dit, pardon, j'avais pas compris qu'il fallait un sacrifice sanglant. Et bien la prochaine fois, pareil, la prochaine fois, j'achèterai un mouton à Abel, et voilà, et on fera le sacrifice ensemble. C'était gagné. Est-ce qu'il aurait pu faire ça ? Il aurait pu dire, mais il aurait pu dire tout simplement, mais qu'est-ce que je dois faire ? Mais c'est pas ça, souvent, le bon sens. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Daniel a dit à ce grand roi, mais puisse mon conseil te plaire et ton bonheur se prolongera. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous devenions comme des bêtes. Je prends ce mot parce que c'est ce qu'est devenu ce roi. Pendant 7 ans, il lui a fallu que 7 ans pour commencer à relever les yeux vers le ciel. La volonté de Dieu, elle est bonne. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mes frères et sœurs, le Seigneur ce matin, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que l'Église soit bénie, il veut que l'Église soit vraie, qu'elle vive dans la vérité. Oui, il y a des choses que Dieu a en horreur et on devrait les relire peut-être. Est-ce que dans mon attitude, il n'y a pas des choses qui dérangent ? Je parlais du regard hier parce que je repense au mariage hier, c'était vraiment un moment béni. Je sais que vous avez été bénis à la réserve de Sijan, mais nous aussi on a été bénis ici. Je pense à ce verset, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni. Est-ce que c'est important le regard ? Comment regardez-vous les gens avec qui vous vivez ? Parce que ça reflète quelque chose, le regard. C'est vrai ou non ? Est-ce qu'avec un regard, on peut faire beaucoup de mal ? Ouais. Vous savez, un regard en dit long. Quand Jésus a regardé Pierre après le reniement, j'imagine le regard du Seigneur. Il est dit que Jésus regarde à Pierre. Je suis sûr que c'était un regard plein d'amour et pas un regard en train de dire, tu vois, je t'avais bien dit. Ne riez pas, parce qu'avec les regards, alors imaginons-nous avec les paroles, combien nous avons besoin de réfléchir à ces choses. Parce que si nous ne réfléchissons pas, les choses charnelles prendront le dessus. Oui, il faut aimer la prière, oui, il faut aimer tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Il faut prier, on ne l'a pas lu, mais c'est écrit dans Luc 18, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier. il faut prier, c'est un commandement, c'est un besoin, c'est vital, ça doit être un rafraîchissement, c'est la vie de l'Église. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'a pas compris quelque chose. Mais un chrétien qui s'appuie sur ses prières, c'est un chrétien qui n'a rien compris non plus. Voilà. Jamais il est dit, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis. Jamais il est dit, heureux l'homme qui prie. Jamais. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils s'appuient sur la prière, je le répète. Un chrétien qui ne prie pas, il est en danger. Parce que Jésus a dit, veillez à prier, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront sur la terre. Et que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Tiens, j'en profite. Par rapport à ce qui s'est passé cette semaine aux informations, il y a des choses que l'on peut relever. Vous savez que le ministère est intervenu dans plusieurs sites qui sont développés par des sectes en ce qui concerne les prophéties de 2012. À savoir que la terre sera détruite le 21 décembre 2012. Alors j'ai une très 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 mauvaise nouvelle, ça va durer encore, on n'est pas prêt de voir la terre détruite. Pourquoi ? Parce que vous savez que la grâce a commencé quand Jésus-Christ est venu. Écoutez bien parce qu'il faut le comprendre. Parce qu'il y a des chrétiens qui me posent des questions, est-ce que la terre peut être détruite en 2012 ? Alors écoutez-moi, c'est impossible que la terre soit détruite en 2012, je vais vous dire pourquoi. Parce que la colère de Dieu n'est pas encore revenue, il y a les prémices de la colère. Ce que nous voyons actuellement, tous ces soulèvements, vous avez vu, est-ce que c'est écrit qu'il y aura des soulèvements et des coups d'État? Des grands tremblements de terre, est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit qu'il y aura des famines? Bon, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, votre délivrance approche. Ce sont les prémices de la colère, exactement pareil comme les contractions d'une femme enceinte. C'est le signe que le bébé va bientôt arriver. Les contractions se rapprochant amènent la femme à savoir que le bébé va bientôt naître. Jésus dit ces choses. L'apôtre Paul parle des douleurs de la femme pour expliquer les signes qui se rapprochent. Lorsque l'Église va être enlevée, il va y avoir la colère de Dieu sur la terre. Ça va durer 3 ans et demi, 7 ans. On ne va pas rentrer dans ce débat. C'est pas le moment. Mais il va y avoir la colère de Dieu. À la fin de la colère de Dieu, il va y avoir la bataille d'Armageddon. Et après la bataille d'Armageddon, il va y avoir sur la terre 1000 ans de paix. Un règne de 1000 ans de paix. Donc, 2012, il va falloir attendre un peu encore. Il y a au moins 1000 ans d'erreur. Mais c'est vrai, vous le comprenez? C'est vrai que la terre sera détruite. C'est vrai. Que c'est écrit que de la même manière qu'elle a été submergée par l'eau, elle sera détruite par le feu. Mais après les 1000 ans, on sera parti vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, ne vous inquiétez pas, le 21 décembre 2012, il y aura l'alignement des planètes. Mais je vais quand même vous dire, je ne suis pas un féru d'astronomie, mais chaque année, le 21 décembre, il y a l'alignement des planètes. Chaque année. Alors, il ne faut quand même pas... Vous voyez, ce qui est important, c'est peut-être de se renseigner un peu. Mes frères et sœurs, en 2012, il y aura la grâce de Dieu. Dieu pourra nous reprendre. C'est vrai que l'Église, elle peut être enlevée. Mais la terre ne sera détruite, pas encore, croyez-moi. Cette petite digression, pour que nous comprenions quand même que ces choses, elles sont écrites, et qu'un homme qui a la foi, il comprend ces choses. Bon, je reviens à mon sujet. Confiez-vous en Dieu. Amen. Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous aimez prier? Alors, je repose la question. Est-ce qu'après avoir prié, vous vous inquiétez? Eh non, mais c'est ce qu'on me dit, c'est ce que les gens me disent. Hein. Alors, cette vraie foi, Dieu la trouve-t-il ce matin dans le cœur? Cette foi de bien réagir, parce que la foi c'est croire ce que Dieu dit, mais c'est réagir à ce que Dieu nous dit. Si le Seigneur me demande de me repentir, j'étais avec un jeune à Gap le week-end dernier, un jeune il a été travaillé par une prédication, et il me dit ça fait 5 ou 6 ans que j'entends la parole de Dieu, mais j'ai compris ce matin que chaque fois que j'entends, et que je repousse, j'ai compris ce matin que mon cœur s'endurcissait. Et je commence à le vérifier. Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous pouvez prier pour que je me convertisse? J'ai dit non, mais c'est hors de question. Je ne vais pas prier pour que vous vous convertissiez. Convertissez-vous! Il me regarde, mais quand? Mais maintenant. Mais je peux? Oui. Et il baisse la tête et il prie, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Et il dit voilà. Il dit, voilà ce qu'il fallait faire. Il dit, voilà, vous l'avez fait de tout votre cœur? Oui. Alors j'ai posé quelques questions de base. Mais Vous comprenez ce que je veux dire? Quand Dieu demande quelque chose, il faut le faire. Quand Dieu nous encourage, prenons l'encouragement. Quand Dieu nous reprend, acceptons le reproche. Mais réagissons chaque fois à ce que Dieu fait. Quand Jésus a dit à Pierre, le Satan t'a criblé t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi, ta confiance ne défaille pas. Jésus aurait pu dire à Pierre, écoute, tu sais, Satan, il a une intention qui ne me plaît pas. Il va te cribler, mais moi je suis le Tout-Puissant et ça n'arrivera pas. Est-ce que le Seigneur aurait pu le faire, ça? Mais oui, mais il avait besoin d'être criblé, parce qu'il s'appuyait sur ses propres forces. Les autres, ils te renieront, mais moi surtout pas, moi j'irai à la mort avec toi. Il mentait pas. Il le croyait. Mais Dieu voulait qu'il se soit débarrassé de ses propres forces, pour s'appuyer sur les forces du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est ça la foi. Le Seigneur me débarrasse de mes scories, et s'il permet que l'ennemi permette certaines épreuves, eh bien c'est bien. Dieu permet parfois que certaines choses se produisent. Pourquoi ? Pour nous débarrasser de nos propres forces. Quand Dieu permet une épreuve ou quand Dieu permet qu'une épreuve se poursuive, il sait pourquoi. Quand Dieu a dit à l'apôtre Paul, écoute, ça fait 3 fois que tu me pries maintenant, mais ce n'est pas la peine que tu pries. Cette écharde, tu vas la garder toute ta vie. Parce que moi, je n'ai pas envie que tu t'enorgueillisses. Tu vas rester faible. Moi, je reste fort. Tu restes faible. On va travailler comme ça. Et Dieu a béni l'affaire. Et il a dit, je me plais dans la faiblesse. Sa foi a été fortifiée. Et je crois que nous devons prier dans ce sens. Seigneur, surtout que ma foi soit fortifiée. Cette épreuve que je traverse, je l'accepte. Tu me feras justice, c'est bien. Tu ne me feras pas justice, c'est pas grave. Je te fais confiance. Moi, je veux t'obéir. Je veux marcher sur ce chemin de la foi. Est-ce que ça valait la peine que Paul ne s'enorgueillisse pas? Est-ce que ça valait la peine? Quand on voit le résultat, moi je suis sûr que ça valait vraiment la peine. Est-ce que ça valait la peine que le pauvre pêcheur Pierre, le pêcheur de poissons Pierre, soit criblé? Est-ce que ça valait la peine? Quand on voit ce qu'il a fait après. Est-ce que ça valait la peine que Joseph soit criblé, le patriarche? Dieu ne se trompe jamais. Et je crois que si on commençait à dire, Seigneur, je te fais confiance, comme David, mes ennemis reculent. Les ennemis, ce n'est pas forcément des Goliaths que vous trouverez à tous les coins de rue. Les ennemis, ils sont parfois là-dedans. Les pensées, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons nos pensées captives. Il compare nos pensées à des forteresses. Oui, il y a des forteresses. Il y a des gens qui font le tour de la ville en voiture. Vous le savez? Vous savez qu'il y a des endroits où les chrétiens font comme du temps de Jéricho, ils font le tour des villes en voiture, cette fois. C'est ridicule. On va s'emparer de la ville, alors le matin, ils font le tour du périphérique. C'est ridicule. C'est comme si vous alliez à la cité de Carcassonne. C'est bien d'y aller. Mais allez-y pour la beauté du paysage, mais n'y allez pas pour faire... Elles ne tomberont pas, les murailles. Les murailles, aujourd'hui, c'est pas des pierres. Les murailles, ce sont des pensées, des luttes intérieures, des mauvaises pensées que l'on a. Quand est-ce que Jésus, justement, dira à Pierre, mais si quelqu'un ne renonce pas à lui-même... Il fallait qu'il renonce à ses pensées. Il avait dit, mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le problème de Pierre, ce n'était pas l'argent. Il avait déjà tout renoncé. Et puis, ce n'est pas la peine. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être riche pour être avare. Hein. On peut être pauvre et avare. Le problème, c'est les pensées. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et sérieusement, frères et sœurs, nos pensées, c'est sérieux ça. Est-ce qu'elles collent aux pensées de Dieu? Ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est la pensée de Dieu? Oui ou non? Ce que je suis en train de choisir dans mon foyer, dans ma maison, dans mon travail, je ne sais pas. Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Seigneur, communique-moi ta pensée. Communique-moi-la. Oui, Jésus, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Des gens dans des églises, il en trouvera. Des gens qui prient. Hier, je regardais une émission, hier soir, parce qu'il y avait une émission sur la Polynésie, et comme j'ai travaillé 3 ans, j'ai voulu la regarder. Et je regardais, il priait pour gagner à une course de pirogue. Je me suis dit que c'est triste. De prier pour gagner une course de pirogue. Si la prière, on la résume à ça, qu'il prie pour que Dieu les garde pendant la course, c'est une chose. Mais moi, je crois, mes frères et sœurs, que la prière, c'est sérieux. La piété, c'est quelque chose de sérieux. c'est le salut de nos âmes. Oui, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera ce matin des frères, des sœurs qui disent « Oui, je lui fais confiance. Oui, il y a des ennemis. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des problèmes. Mais je crie à Dieu. » Et crier, je le répète, ce n'est pas des décibels. C'est tout simplement dire « Seigneur, ma foi, ma confiance sera plus forte que toutes mes pensées qui me poussent à douter, de toutes mes pensées qui me pousse à me demander est-ce que je mérite, voyez, il faut qu'on arrive à ne pas regarder à soi. S'il y a un problème, on le règle. Mais quand la Bible dit prouvez-vous vous-même, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, ça veut dire examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la confiance, donc ça veut dire examinez-vous vous-même pour savoir si vos regards sont sur Dieu. C'est pas ça que ça veut dire pour vous? Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça ne veut pas dire examinez-vous, faites de l'introspection morbide pour voir ce qui s'est passé il y a 20 ans en arrière, comme cette femme quand elle a vu le prophète Élie, parce que son fils était malade, sur le point de mourir. Et quand elle a vu le pasteur arriver, elle dit « Ouais, est-ce que tu es venu pour rappeler le souvenir de ma faute ?» Vous savez cette histoire? Vous voyez comme l'esprit est tortueux. Cette femme, elle a corroboré l'épreuve qu'elle traversait. Oui, c'est-à-dire son fils qui était en train de mourir. Elle a dit, ouais, c'est parce qu'il y a des années, j'ai fait une faute. Moi, je crois que quand on a fait une faute, on la règle, c'est fini. Vous voyez, mes frères et sœurs, es-tu venu pour me rappeler le souvenir de ma faute? Et alors, nous avons un Dieu qui aime les gens, un Dieu qui aime l'Église. Il y a une faute, je la répare. J'ai commis un péché, je le répare. J'ai commis une erreur, je la répare. Et quand elle est réparée, elle est réparée. Examinez-vous pour voir si vous faites toujours confiance au Seigneur. Parce que c'est comme ça que l'Église sera bénie. Une Église qui a vraiment confiance. Oui, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Pas après qu'on en eût fait le tour pendant 7 jours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 7 jours? Eh bien, ils ont obéi à Dieu. Dieu leur avait dit, vous faites le tour de la ville. Mais quand Dieu vous dit, mais ne vous irritez pas. Eh bien, je ne méritais pas. S'ils n'avaient pas fait le tour de la ville, ils n'auraient pas obéi à Dieu. Vous comprenez, je veux dire. Et le problème, ce n'est pas d'imiter ce que certains ont fait. Ah, t'as jeûné 3 jours? Ah, ben je vais jeûner. T'as été guéri, oui. Ah, je vais jeûner 3 jours. Vous voyez, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est pas chercher Dieu. Ça, c'est chercher des trucs qui marchent. Comment t'as fait? T'as été délivré du tabac? Comment? Ah, tu t'es mis à genoux 1 heure? Ah bon? Genoux 1 heure. C'est ridicule. Vous voyez? Et mais c'est comme ça qu'on en est arrivé à des absurdités. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font le tour de Toulouse en voiture. Franchement. Est-ce que Dieu leur a demandé? Est-ce que vous voyez Dieu en train de demander à des chrétiens de faire le tour de la ville cette fois? Le cri de la victoire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et si les soldats de Josué n'avaient pas obéi, eh bien, ils seraient toujours en train de tourner peut-être, oui. Mes frères et sœurs, la victoire, Dieu la met sur les hommes. Chaque fois que Jésus guérissait un homme, moi ça m'a toujours bouleversé dès le début. Je ne pensais pas avoir enseigné ces choses parce que je ne savais pas que je serais pasteur, mais ça a quand même bouleversé au début de ma vie chrétienne, quand Jésus guérissait un homme et qu'il lui disait « Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. » Mais je me dis « Mais c'est pas la foi qui l'a guéri. C'est Dieu qui l'a guéri. C'est le Seigneur qui l'a guéri. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui l'avait guéri. Mais Dieu, dans sa bonté, pour nous aider, nous interpeller, nous faire réfléchir à ce sujet, met l'accent sur notre petite ou nette participation. Et même si elle ne représente qu'1%, c'est l'étincelle qui allume la flamme, le feu. Est-ce que vous comprenez? Par la foi. C'est par la foi. Oui, Josué aurait pu dire, c'est par ma puissance que tu es guéri. C'est par ma puissance. Le Saint-Esprit, vous ne croyez pas qu'il aurait pu inspirer l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Personne n'aurait rien dit. C'est par la puissance du Tout-Puissant que les murailles de Jéricho tombèrent. Oui ou non? Mais quand même. Et non, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours, après qu'on a obéi simplement à ce que Dieu avait demandé. Faites le tour, ne parlez pas, ne dites rien. Je comprends pourquoi Dieu dit ne dites rien. Parce que s'ils avaient commencé à parler dans les rangs, il y en a peut-être qui auraient commencé à dire, non mais attends, mais ça ne tient pas debout cette affaire. Parce qu'il y a toujours des gens, bien disposés pour vous empêcher de faire confiance tout simplement à Dieu. Mais non, il te faut faire ci, et il te faut faire ça. Moi, je suis convaincu que le Seigneur, il peut nous mettre à cœur certaines choses. Et on les fait. Mais moi, ne venez pas me dire, il te faut faire ci, il te faut faire ça, il te faut jeûner 7 jours. Je crois que si le Seigneur le veut, il me le mettra à cœur. Et je le ferai avec joie et par conviction. Et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on fait les choses par conviction. Le Seigneur vous demande, nous demande, d'avoir une véritable confiance. Il est digne de confiance. David dit, oui, mes ennemis ont reculé, mais c'est clair. Il s'était confié en Dieu. Quand il a tué le géant, qu'est-ce qu'il avait fait en vérité? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait obéi à son père, qui lui a dit la veille, écoute, demain tu fais garder ton troupeau et tu prendras ses fromages, ses pains, et tu les amèneras à tes frères et aux chefs des milliers de l'armée. Voilà comment une victoire a été remportée. Parce que David a obéi à son père. Il n'a pas dit, tu sais, moi, tu te rappelles pas? Il y a 3 mois. Papa, tu te rappelles pas? Il y a 3 mois, Samuel, il est passé. Vous m'avez laissé dans les champs pendant que vous faisiez la fête. Hein? Tu te rappelles pas que c'est moi qui ai l'onction? Alors les fromages, tu les envoies à quelqu'un d'autre. C'est pas vrai? Moi, j'ai reçu l'onction. L'onction, c'est sûr. Quand un homme a l'onction, il obéira à Dieu. Oui ou non? Et il l'a fait. Et la victoire, il doit s'en souvenir, Goliath, a pu être réalisée parce qu'un jeune homme a obéi à son papa qui lui demandait d'apporter du pain et des fromages dans la vallée de Héla, à 30 kilomètres de Bethléem. La foi, c'est une foi qui fait les choses simplement. Tu me demandes de te faire confiance? Je le fais. Voilà. Je prierai, je louerai, je lirai, je servirai, je ne m'appuierai sur aucune de ces choses. Je les ferai parce qu'elles sont nécessaires. Mais en vérité, quoi que ce soit que je fasse et quoi que ce soit que je ne fasse pas, je me confierai en Dieu. Et ça lui plaira. Si quelqu'un demande quelque chose, qu'il le demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Ce n'est pas une punition restrictive, ce n'est pas une condamnation, c'est un principe. Quand quelqu'un a confiance, eh bien Dieu agit. Quand quelqu'un n'a pas confiance, eh bien Dieu n'agit pas. On va fermer les yeux quelques instants. C'est important, mes frères et sœurs, de rester dans ce repos. Je ne sais pas de la façon dont Dieu vous a parlé ce matin, parce qu'il y avait plusieurs pensées dans ma prédication. Je ne sais pas ce que personnellement, chacun d'entre vous, vous avez perçu, ce que vous devez retenir, ce que vous devez corriger ou ce que vous devez entreprendre. Peut-être que vous n'êtes pas encore converti et votre responsabilité, c'est de donner votre cœur à Jésus. Faites-lui confiance. Le plan que Jésus a pour vous, il est bon. Vous pouvez faire confiance à Jésus. Si vous lui donnez votre vie, vous serez sauvé. Sauvé de l'enfer, sauvé de la misère, sauvé de la perdition, sauvé de ce monde malade. Si vous êtes chrétien, ne voulez-vous pas recommencer, réapprendre ou poursuivre cette véritable confiance? Oui, il est digne de confiance. Heureux tous ceux qui se confient dans le nom de l'Éternel. Comme je l'ai dit il y a 15 jours, le nom représente le caractère, le nom de ce Dieu fidèle, le nom de ce Dieu puissant, le nom de ce Dieu miséricordieux, le nom de ce Dieu qui va n'importe où interpeller les Caïn, interpeller n'importe quel homme pour leur faire du bien. Comment réagissez-vous? Comment réagirez-vous? Dieu veut votre bien. Et Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il nous a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu. Si vous savez que vous êtes vainqueur par le sang de Jésus, vous pouvez lui faire confiance. sur toutes les épreuves. Mais réagissez, faites ce que le Seigneur vous demande. Faites-le. Notre Père, notre Dieu, nous sommes à tes pieds. Oui, nous le croyons que lorsqu'un homme te fait pleinement confiance, il t'est agréable. Nous nous humilions, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes appuyés sur nos forces propres, sur nos idées, sur nos projets, sur nos idées à nous, oui, Seigneur, sur nos prières, pour toutes les fois où nous nous sommes appuyés sur nos méditations, sur nos jeûnes, Seigneur, pardon. La confiance, nous voulons l'avoir en toi seulement. Enseigne-nous à nous approcher de toi, à prier comme tu le veux, ou à jeûner comme tu le veux. Mais Seigneur, que jamais nous ne nous appuyions sur ces choses. Nous voulons nous appuyer sur toi. Tu l'as dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel seul. Tu nous vois, nous sommes tes enfants. Tu vois nos pensées. Tu vois celles, ces pensées qui sont comme des forteresses qui empêchent ta grâce de s'approcher. Nous voulons les renverser, Seigneur. Aide-moi dans les prochaines réunions à expliquer ce que sont ces forteresses, ces raisonnements, afin que l'Église soit libérée, que tous ceux qui sont sous l'emprise de ces pensées diaboliques soient délivrés et vivent dans cette grâce souveraine. Seigneur, oui, nous le croyons, que ta grâce est immense. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.